nous allons à Condom. La ville du Gers, vous le savez, était sous les feux médiatiques la semaine dernière et pour cause, le président de la République y a lancé les 37e journées européennes du patrimoine et visité surtout les travaux de restauration de l'hôtel de Polignac. L'hôtel de Polignac, c'est le premier monument en péril d'Occitanie à avoir bénéficié du loto du patrimoine. Alors, maintenant que le calme est revenu dans le Gers, je vous propose d'entrer dans la découverte et dans l'histoire de cet hôtel particulier. Et c'est Olivier Seb qui est notre guide ce matin. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes historien de l'art, vous êtes médiéviste, délégué à l'action culturelle de la Fondation du patrimoine pour l'Occitanie-Pyrénées, délégué pour le Tarn également. Alors je crois que les auditeurs vous connaissent bien, hein, car vous sévissez sur notre antenne, c'est le mercredi à 13h20 pour une émission bien nommée qui s'intitule « Patrimoine ». Et donc de patrimoine ce matin, il va également en être question. Alors, qu'est-ce que l'hôtel de Polignac a de si particulier pour qu'il ait été choisi par le loto et fait l'objet d'une visite présidentielle? C'est ce que nous allons découvrir, c'est ce que je vous propose de nous faire découvrir, Olivier Seb. Et alors d'abord, hein, comme nous sommes à la radio, il va peut-être falloir nous le décrire, cet hôtel particulier, peut-être une précision de quand date-t-il d'abord?
Ah bien, alors très volontiers. D'abord, il date de la fin du XVIIIe siècle, en fait, de la période de 1775 à peu près. On est dans une époque qui est très bouleversée parce que c'est une période où on vient de sortir du classicisme et de l'époque baroque de Louis XIV avec Versailles, avec les jardins de Lenôtre. En province, on garde encore cet esprit-là parce que c'est l'esprit de la grandeur du royaume et on atteint sur la région parisienne, eh bien, les salons littéraires. Donc, on est déjà dans une préparation de bouleversement par évidence, d'autant plus que les grandes conquêtes pour les îles, par exemple du Pacifique, démarrent et donc la France a acquis une place sur le monde qui est tout à fait considérable.
Et alors pourquoi donc, un hôtel particulier à Condom, hein, je ne voudrais pas faire offense aux condomois qui nous écoutent, mais pourquoi un bel édifice comme celui-là?
Alors ça tient à une histoire et surtout à l'histoire d'un homme. D'abord, il faut dire que Condom a un patrimoine tout à fait remarquable autour d'un évêché qui est très médiéval et il va compter dans notre histoire. Et cet évêché se trouve sur le plateau qui domine le cours de la Gelle, qui est une rivière qui passe donc sur le nord-ouest de la ville. Et cette petite rivière, en fait, est séparée de l'évêché par la fin de ce plateau. Et ça, c'est très important parce que l'hôtel de Polignac se situe sur deux versants tout à fait extraordinaires au niveau de ses façades. Une qui regarde la ville et qui est très classique, et puis une autre qui regarde le cours de la Gelle, mais qui la domine de façon tout à fait impressionnante, comme étant installée sur les remparts d'une façade qui mesure plus de 30 mètres de haut. Donc il y a un aspect médiéval, si je puis dire, et très fortifié du côté de la rivière, alors que c'est très avenant du côté de la ville.
Alors, une double face pour cet établissement. Alors, on va y entrer. Hein. Je crois qu'on y entre côté rue. Hein.
Ah oui, certes, bien sûr, parce qu'on ne va pas escalader la façade côté rivière. Donc, on se trouve côté rue avec un très beau portail, surtout des grilles en fer crochet de toute beauté. Un portail avec deux piliers de pierre très décorés, une sorte de manifestation de l'autorité du propriétaire dès l'arrivée devant la façade. Et quand on pénètre dans la cour intérieure, on a une très très belle colonnade qui le sépare d'une part des communs et surtout de ce qui est devenu un petit peu l'aile de retour sur cette petite cour intérieure et de l'autre côté d'un jardin qui a été transformé depuis, mais un jardin qui était à la française. Et en face, on a cet hôtel particulier qui domine la cour avec un fronton triangulaire, une très belle manifestation du classicisme avec deux ailes de part et d'autre et un très beau fronton qui lui-même est la cour d'honneur pour la cour d'honneur est un peu la grande entrée chez le propriétaire. Alors, on peut pousser la porte.
Alors, on pousse la porte.
Vous voulez qu'on monte ?
Allons-y. On monte. Vous nous guidez.
Alors, on rentre en fait dans un vestibule très, très large, très ample, avec à droite l'entrée d'un grand escalier qui est splendide, qui est un de ces grands escaliers du XVIIIe siècle qui ont fait le prestige de toutes ces maisons nobles. Et en fait, cet escalier grimpe de façon très élégante. Alors, il faut se souvenir que nous sommes chez un prélat. Et donc, on a tout dans ce décor qui aujourd'hui est un décor de pierre, de peinture, de stuc. Il faut ajouter tout ce qu'était le décor, le décorum de la manifestation de l'autorité d'un prélat, c'est-à-dire une famille importante, d'une part, qui a permis d'accéder à ce niveau social, mais en même temps, une présence de l'Église qui se manifeste par les habits sacerdotaux, par tout un protocole extrêmement précis. Et donc, il faut se rendre compte que cette grande cage vide, qui pourrait être vide, on va voir qu'elle est au contraire très vivante aujourd'hui, mais d'une toute autre manière, était à l'époque conçue pour pouvoir recevoir cette ambiance très aristocratique, non seulement de familles anciennes du pays, mais en même temps de l'Église qui, avec tous ses atours, imposait son pouvoir.
Alors avec des tapisseries d'Aubusson notamment, hein, je crois.
Oui, des tapisseries d'Aubusson qui sont des restes du mobilier, puis surtout des cheminées avec des décorations de stuc. On a des cheminées qui sont Louis XV, donc avec beaucoup de décors, avec des volutes, avec des petits angelots, des personnages qui viennent se greffer sur un panier avec des oiseaux, des grappes de fruits. Donc une ambiance de prolifération de ce qu'est la jouissance du pays, et le faire, c'est un pays absolument splendide, l'art de vivre et la manière de goûter justement dans ces grandes salles, la lumière qui pénètre par de très grandes baies, avec justement la vue sur la vallée d'un côté et sur la cour de mer de l'autre.
Vous nous faites rêver, Olivier Seb. Alors, depuis 150 ans, cet hôtel particulier abrite une école. Hein, ça doit être, on imagine que c'est cocasse de voir et d'entendre ses enfants jouer et étudier dans ce décor. Mais alors, vous l'avez dit, hein, ce n'était pas sa vocation d'origine d'être une école. C'est pas un château, cet hôtel particulier appartenait à un prélat, l'abbé de Polignac. Comment expliquer qu'un édifice pareil appartienne à un ecclésiastique ?
Eh bien, cet ecclésiastique, il avait commencé d'abord à être vicaire général, et puis ensuite il fut abbé d'un prieuré de Lérac dans le Gers, et il était très proche d'un évêque de Condom qui, en fait, a été transféré, plutôt a récupéré l'évêché de Metz. Et cet évêque, qui s'appelle Louis-Joseph de Montmorency-Laval, une très grosse famille de France, fait appel à cet ancien abbé qu'il a connu dans le Gers pour qu'il devienne son vicaire général à Metz. Mais ce vicaire général, bien entendu, il est aux côtés de l'archevêque et il n'a qu'une envie, c'est de devenir à son tour, de monter sur un siège épiscopal. Et le siège de Condom l'intéresse énormément. Il est très riche, c'est un siège épiscopal très puissant. Bossuet a fut pendant 2 ans évêque de Condom, c'est dire. Et donc, quand il a fini en fait son vicariat à Metz, il se précipite à Condom en espérant bien être vicaire général du nouvel évêque, Alexandre César d'Anteroche. Mais celui-ci boude. Et en fait, il lui fait un pied de nez, si je puis dire, en choisissant un prêtre d'Auch, Jean-Paul Fadoas, qui est un personnage un peu de l'ombre. Et du coup, on peut dire que M. de Polignac est extrêmement vexé. Il voulait devenir évêque, il n'est que vicaire général. Certes, on l'appelle Monseigneur, mais il a une puissance financière suffisante qu'il a acquise à Metz, et donc il fait construire cet hôtel. Et cet hôtel va rendre jaloux l'évêque. Il est bien évident que l'hôtel regarde non seulement la rue par laquelle on est entré tout à l'heure, mais elle regarde surtout le parc de l'évêché médiéval dans lequel l'évêque se morfond parce qu'il est dans des bâtiments extrêmement sombres et il construit en face de lui une demeure tellement splendide que bien entendu il s'attire la jalousie de tous les condomois et ça va lui porter préjudice au moment où il perd peu à peu sa fortune et il est obligé de vendre avant la fin de sa vie l'hôtel de Polignac.
C'est le Volvicomte de Condom, cet hôtel particulier et cette jalousie intestine entre ces deux ecclésiastiques. Ça dit quelque chose d'ailleurs cette histoire et cette querelle sur le clergé, la richesse du clergé du 18e, la fin du 18e siècle, Olivier Seb.
Ah oui, certes, parce que le clergé est très puissant. Il ne faut pas oublier que les évêques collectent l'impôt. Ce sont d'ailleurs les diocèses qui ont formé ensuite les départements, tout simplement parce qu'il fallait collecter l'impôt après la Révolution. Donc la structure même du pays était basée sur les évêchés et les évêques sont un personnage extrêmement puissant. Il ne faut pas oublier que la religion catholique est religion d'État. C'est eux qui font les rapports au roi ou à son ministre, comme l'a fait Colbert, dont on a parlé récemment très longuement, le grand ministre de la royauté de la fin du XVIIe et XVIIIe siècle. Et en fait, on se retrouve avec au travers de l'évêque, un potentat considérable. C'est lui qui gère le territoire, comme aujourd'hui le gérerait le préfet, mais avec une capacité de pouvoir bien supérieure, puisqu'il a, avec son clergé sur l'ensemble des paroisses, la mainmise sur tous les éléments de commerce, d'industrie, et bien entendu sur le plan spirituel des populations.
Alors aujourd'hui, les Condomois se vantent d'avoir la plus belle école de France. On l'imagine aisément qu'il doit être bien agréable d'étudier dans cet édifice. Comment est-ce que c'est devenu une école?
Eh bien, ce sont les lois Jules Ferry, en fait, de 1880 et 81, qui ont créé d'une part des écoles pour les filles et puis la gratuité des écoles communales. Et donc, la ville de Condom est une des premières villes à s'inscrire dans ce mouvement et elle prend en main l'hôtel de Polignac en considérant que ça peut, avec cet espace tout à fait considérable, d'une part pour les salles de classe au niveau du premier étage et du rez-de-chaussée, et puis dans les sous-sols, eh bien, les cuisines, réfectoires, tout ce qui est nécessaire à l'intendance. Et donc, tout d'un coup, à partir de 1880-81, ce ne sont plus les grandes robes ecclésiastiques qu'on a connues au XVIIIe, mais ce sont des bambins qui se baladent à l'intérieur. Et quand on regarde le grand escalier, tout à l'heure je vous disais qu'on le faisait avec de grandes robes ecclésiastiques et bien et cléricales, et bien maintenant on a des petits gamins qui montent cet escalier en chahutant, en criant, avec des en souriant, et ça donne un aspect tout à fait saugrenu, je vais dire, à cet espace.
Qui traînent leur cartable. D'ailleurs, c'est parce que c'était un bâtiment qui vit que l'auto du patrimoine s'est penché sur cet édifice, cet hôtel de Polignac que nous découvrons avec vous, Olivier Seb. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent, vous êtes historien de l'art, médiéviste. Et alors justement, je m'adresse à l'historien, mais surtout au délégué de la Fondation du patrimoine. C'était étonnant cette histoire de l'auto. Hein. Et j'imagine pour vous une satisfaction de voir que les citoyens ont compris l'intérêt. Je rappelle que 800 000 euros ont été récoltés. C'est le montant des travaux de restauration dont a pu bénéficier l'hôtel Gersois. Satisfaction pour vous, non ?
Une grande satisfaction. D'abord, ces 800 000 euros pour l'hôtel Gersois ont sauvé la façade sur la rivière qui était en très mauvais état. Et donc, on a des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs mois encore. Mais ceci dit, le loto du patrimoine a surtout un très grand avantage, en dehors d'apporter des coups de pouce tout à fait importants, indispensables pour certains monuments qui sont en péril. Mais surtout, il apporte cette ouverture aux citoyens que nous sommes dans un pays pour que nous nous approprions le patrimoine. C'est très important de dire que le patrimoine n'est pas une affaire seulement de subventions, d'intérêts de quelques spécialistes, architectes qui forment les fonds de nos cartes postales, pas du tout. C'est un élément qui est identitaire pour les populations, c'est un élément qui représente notre environnement quotidien. On ne se promène pas dans une ville sans regarder la cathédrale, regarder l'émotion après l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est tout à fait justifié. Quelles que soient les idées que l'on peut avoir, il est certain que l'on a là une sorte de refuge de notre pensée collective. Et ça, c'est très important que nous puissions y participer. Le loto du patrimoine est une très, très grande réussite à ce titre.
Et oui, et donc cette année, il s'est déroulé du 9 au 19 septembre. Je crois que ça a été un jackpot, hein, d'ailleurs, pour le patrimoine. La Fondation du patrimoine est parvenue à récolter, vous me dites si je me trompe, 14 millions d'euros grâce aux 5 tirages de la mission patrimoine. Des monuments d'Occitanie vont en bénéficier, 13 je crois, et plus particulièrement l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude. On est bien d'accord là-dessus, Olivier Seb?
Tout à fait, qui a été élu comme monument emblématique pour l'Occitanie. C'est un monument splendide dans une petite vallée audoise qui le méritait amplement. Et ensuite, il y a un monument par département. Et donc, on se retrouve avec un maillage, si je puis dire, de bâtiments qui vont ainsi permettre de sauter une marche très difficile et d'aller vers l'avenir et donc vers nos enfants, ne l'oublions pas.
Eh bien, nous en reparlerons. Un grand merci de nous avoir fait cette découverte, car il ne se visite pas aujourd'hui, j'imagine, l'hôtel de Polignac, hein, puisque c'est une école.
Non, exceptionnellement, lorsqu'il est ouvert pour les journées du patrimoine ou pendant parfois quelques dimanches, mais c'est effectivement d'abord une école et ce sont les enfants qui, au fond, en bénéficient.
Eh bien, c'est tant mieux pour eux. On s'en réjouit. Un grand merci à vous, Olivier Seb, d'avoir été notre guide ce matin. Vous êtes historien de l'art, médiéviste et délégué à l'action culturelle de la Fondation du patrimoine pour l'Occitanie-Pyrénées. Merci à vous. Très bonne journée.
Merci.